Anne Roche.
Le journal de 6h avec Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Courage, 13 jours, allez, même pas 2 semaines. Voilà ce qui nous sépare du début officiel des vacances. Jeudi 7 juillet pour les écoliers et la saison touristique s'annonce d'ailleurs exceptionnelle.
Et d'ailleurs, les réservations s'emballent.
Oui, location de voitures, trains, déjà 8 millions de billets SNCF vendus. C'est 10% de plus par rapport à l'été 2019, le dernier sans Covid. Et côté hôtellerie, Geoffrey Branger, quelle est la tendance ?
Alors ça cartonne, c'est d'ailleurs déjà difficile de trouver des hébergements dans certaines régions comme en Corse, sur la Côte Basque ou encore en Bretagne. 90% des gîtes de France par exemple sont réservés. Pour les villages vacances Bellambra, les établissements sont déjà bien remplis. Alexis Gardy, le président du groupe.
On est très confiant pour cet été. On est aujourd'hui à un peu plus de 70% d'occupation sur juillet et un peu plus de 60% sur le mois d'août. Donc la dynamique est très bonne, il est temps de réserver.
Du côté du Club Med, tous les hôtels sont complets, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation, les Français vont tenter de réduire la facture. Alors, les réservations explosent dans les campings, souvent plus économiques. Mais avec cette très forte demande, les prix augmentent, comme l'explique Alain Calmet, le président du groupe Omer.
Cette année, les tarifs montent, il y a beaucoup de demandes. On est presque plein et dans certains endroits, ça va être à peu près la même chose que l'an dernier, mais dans d'autres, ça peut atteindre plus 10%.
Alain Calmet, président du groupe Omer, contacté par Geoffrey Branger. Des prix en hausse et le budget des Français en baisse. Moins 8% cette année, selon une enquête CSA Research.
Et pour ceux qui prendront l'avion, eh bien, gare à la pagaille dans les aéroports.
Oui, et ça commence dès ce week-end avec un appel à la grève du côté de la compagnie Ryanair. Le personnel navigant est appelé à rester sur le tarmac samedi et dimanche. Mobilisation aussi des syndicats de pilotes d'Air France et Transavia dès demain. Des perturbations aussi à prévoir du côté des transports en Île-de-France. France ce vendredi. Grève sur la quasi-totalité des RER et certaines lignes de Transilien aujourd'hui et demain.
Il est 6h02 sur Europe 1. Comment élargir la majorité présidentielle ? Casse-tête posée à Elisabeth Borne. La première ministre s'entretient aujourd'hui avec les présidents des groupes à l'Assemblée nationale.
Une guerre des nerfs où la chef du gouvernement est en première ligne. Elle était d'ailleurs l'invitée hier soir du plateau de LCI. La fin de son silence depuis le résultat des législatives. L'occasion de se défendre aussi face aux critiques de l'opposition. William Molinier.
Si Elisabeth Borne sait qu'elle a accepté un CDD à Matignon, elle compte jouer sa partition jusqu'au bout. Elle entend rester le chef d'orchestre du gouvernement et de la majorité. Et le bras de fer annoncé avec les députés ne l'impressionne pas.
Dans le précédent quinquennat, vous savez, quand j'ai porté la réforme de la SNCF, je peux vous assurer qu'il y avait déjà des gens qui étaient assez vocaux. Et ça ne me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi.
La première ministre s'attache à lisser son image de techno. Elle veut montrer qu'elle peut être aussi politique, ouverte à la négociation pour constituer une force de coalition et capable de rallier texte après texte les 37 députés qu'il manque à la majorité.
Le constat qu'on peut faire, c'est que les responsables politiques, aucun ne veut bloquer nos institutions. Au-delà, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de députés qui veulent que notre pays continue à avancer.
Elisabeth Borne continuera d'échanger aujourd'hui avec les représentants des groupes parlementaires. Elle sait qu'elle marche sur un fil car les deux piliers de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou, ne la soutiennent pas. En clair, son défi désormais, c'est de convaincre non pas les Français, mais ses propres troupes.
William Molinier, Elisabeth Borne, qui a aussi affirmé, je cite, qu'elle ne se posait pas de questions sur son avenir à Matignon. La chef du gouvernement, pas certaine non plus de solliciter la confiance des députés.
Et pendant qu'Elisabeth Borne mène la bataille parlementaire, Emmanuel Macron, lui, poursuit son marathon diplomatique.
Le chef de l'État encore à Bruxelles aujourd'hui, suite du sommet des 27. Hier, les leaders européens ont validé la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Feu vert aussi pour la Moldavie. 6h04, le Sénat américain valide cette nuit le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, texte porté par les démocrates et les républicains, une première depuis presque 30 ans.
Et marche arrière en revanche du côté de la Cour suprême, la juridiction vient d'annuler une législation sur le contrôle du port d'armes dans l'État de New York.
En clair, les jurés autorisent les habitants à sortir de chez eux armés et sans motif légitime. Tollé du côté des habitants de New York, pour eux cet arrêt risque de transformer la ville en Far West. C'est ce qu'ils ont expliqué à notre correspondant Alexis Guilleux.
Sous les écrans géants, Sheila s'accorde une pause lecture. New-Yorkaise de naissance, elle est ulcérée par la décision de la Cour suprême.
Nous n'avons pas besoin de plus d'armes. Nous n'avons pas besoin d'un débat là-dessus. C'est grotesque et ça me met très en colère.
La plus haute instance juridique du pays vient de balayer une loi vieille de plus d'un siècle qui a fait de New York l'un des États à la plus faible mortalité par arme à feu. Chez lui, en Caroline du Nord, John possède plusieurs pistolets et fusils et il admet ne pas comprendre le changement de législation.
Il y a beaucoup trop de monde à New York pour autoriser les gens à se balader armés librement. Il n'y a pas de biche ou de dinde à chasser ici, donc il ne devrait pas y avoir d'armes non plus.
Démocrate venue du Colorado, Catherine dénonce le culte des armes au sein de la Cour suprême qui oblige les Américains à s'adapter. adapté.
Je pense que vous devez avoir conscience que maintenant, peu importe où vous allez, vous pouvez être victime d'une fusillade. C'est effrayant. Ça n'empêche pas les gens de vivre, mais c'est toujours dans un coin de votre tête.
La chef de la police de New York a, elle, déjà prévenu, la loi n'a pas encore changé. Toute personne portant illégalement une arme sera immédiatement arrêtée. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
Fanny Omblin, voilà qui va peut-être vous rappeler quelques souvenirs d'adolescente.
Ah.
Est-ce qu'on peut chanter ?
Oui, bien sûr, c'est permis. Fanny qui vient de nous mimer la scène évidemment mythique de Titanic. Est-ce que j'ai vraiment justement besoin de préciser le film dont je vais vous parler, Titanic, mais cette fois sans Leonardo DiCaprio. Alors rassurez-vous, attendez, ne paniquez pas. Là, je vais vous parler d'une pièce délirante qui joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris. Titanic, la folle traversée, c'est le titre de cette parodie du film de James Cameron raconté par Naïma Benchemann.
Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à bord du Titanic.
Le théâtre de la Renaissance est transformé, encombré de bagages, de bouées de secours, de marins qui contrôlent les billets des spectateurs directement embarqués à bord du Titanic, comme le voulait Axel Drey, le metteur en scène de la pièce.
Un jour, je suis tombé sur le célèbre film que tout le monde connaît du Titanic de James Cameron et je me suis dit qu'il y avait une matière à faire une adaptation assez originale, transformer la tragédie en comédie. C'était un challenge intéressant. C'est une sorte de gros hôtel flottant, ce paquebot. Donc, il peut y avoir beaucoup de cabines, de portes qui claquent et ça s'y prêtait très très bien.
Une succession de scénettes portées par une bande de 12 acteurs délurés, ça chante, ça danse, ça tangue dans cette version humoristique de Titanic.
Les icebergs aperçus sur la route de Notre-Dame.
Les icebergs ?
Non.
Tout va bien. Tout va bien.
C'est une comédie, on rit beaucoup, mais on essaie de raconter ce qui s'est réellement passé aussi. On n'élute pas le drame, on le raconte, on essaye de le faire ressentir aux spectateurs.
Paris osé mais réussi, à la fin de la pièce, on ne verse pas une larme, le rideau se ferme avant que le bateau ne coule.
Voilà le Titanic, mais sans les mouchoirs à la fin. Donc ça s'appelle La Folle Traversée. C'est jusqu'au 3 septembre au Théâtre de la Renaissance à Paris.
Merci beaucoup Romane Oquet pour le journal de 6h.